Roxane de la Sablonnière est au bout du fil. Bonjour, Roxane.
Bonjour Hélène, ça va bien?
Oui, ça va. Et vous?
Mais oui, ça va bien.
Oui, alors vous êtes entourée d'une marmaille.
Oui, entourée d'une marmaille. Là, je les ai enfermées dans le sous-sol. On va voir si ça va être efficace, ma technique.
OK. Avec la clé puis tout, là.
Oui, quasiment. Non, je pense
Non,
qu'on n'est
quand
pas
même.
rendu là encore.
Vous n'êtes pas une marâtre. Alors, c'est la chronique psychologie sociale. On vous retrouve à chaque mois, toujours avec le même plaisir. Et je vous présente en bonne et due forme, Roxane. Vous êtes professeure titulaire au département de psychologie à l'Université de Montréal et aussi directrice du laboratoire sur les changements sociaux et l'identité. Et aujourd'hui, vaste question, vous vous êtes intéressée aux violences de masse répétitives qui se répètent et qui se répètent.
Oui, en fait, c'est une question qui vient de ma mère, qui me suggérait ce thème, donc pas un petit sujet. Et puis, pour m'aider, j'ai demandé aux personnes qui travaillent avec moi dans mon laboratoire. Donc, on a fait une discussion à ce sujet-là pour essayer de trouver des réponses pertinentes pour les auditeurs et éditrices. Donc, j'aimerais remercier Raphaël Gris-Jalvar-Lavallée, Marina Borisova, Mathieu Caron-Diotte, Mathieu Pelletier, Charles Ramazan Ali, Samuel Mérino et Rose-Marie Guérard. Donc, on a fait cette discussion libre. Il y a plein de réponses qui sont survenues. Par contre, vous savez, c'est pas un petit sujet, c'est un sujet qui est complexe, donc on n'aura pas toutes les réponses
Non, on
aujourd'hui.
ne fera pas le tour de la question aujourd'hui.
Non, on va essayer de faire un petit tour. Donc, mon étudiant Raphaël, c'est lui qui animait la discussion. Il a posé la grande question, comment c'est possible qu'il y ait autant de gens ordinaires qui aient participé dans l'histoire de l'humanité à des violences si horribles? On pense, par exemple, puis on le voit autour de nous ces temps-ci, au génocide des Arméniens, aux deux guerres mondiales, à l'Holocauste, au génocide rwandais. Plus récemment, on pense à ce qui se passe en Ukraine et au Moyen-Orient. Donc, c'est une question qui est d'actualité et qui a toujours fait partie d'une certaine façon de l'humanité et qui ne cessera jamais d'être perpétrée. Donc, c'est omniprésent. Ce type de violence est si gros. Je ne sais pas, Hélène, mais on se sent souvent dépassé.
Oui,
Puis on a envie.
impuissant, puis
Oui, exactement.
ébaubi, oui.
Oui, on se sent impuissant. Puis, dans ces cas-là, souvent, on a envie de donner une réponse qui est rapide, qui nous rassure, puis qui pour passer à autre chose, puis mener nos vies là, de manière ordinaire. Donc, on essaie de trouver, parce qu'on veut trouver une réponse à une question qui est extrêmement complexe, donc des réponses plus simples. Des fois, on peut dire, ben, ça vient de Dieu ou une loi de l'univers, comme la nature humaine. Puis, une explication qui revient souvent, c'est que la violence serait innée et inévitable, associée à une constitution physique ou mentale de l'humain. Donc, on a l'impression que ça se répète aux mêmes endroits, puis on constate aussi que c'est commis souvent par les mêmes personnes ou le même genre de personnes, ou bien même souvent on dit, ah, c'est plus les hommes, qu'est-ce que ça pourrait être un monde dirigé par les femmes? Donc, ça peut nous mener à déduire que c'est inévitable pour ces personnes ou ces groupes de personnes. Donc, ces explications se fondent surtout sur la croyance qui est dans la nature humaine d'être violent, puis que ça se répète, puis c'est pour ça que c'est éternel et inchangeable. Mais ces explications, même s'ils nous donnent une réponse rapide, d'une certaine façon rassurante, parce qu'on peut passer à autre chose, mais puis que c'est prévisible d'une certaine façon aussi, mais c'est pas nécessairement conforme à ce que la science en dit.
Mais qu'est-ce que la science peut apporter comme réponse, Roxane?
Oui, ben la science peut nous amener plusieurs réponses. Il y a plusieurs domaines aussi, donc tout en étant en dialogue avec les autres domaines comme la sociologie, l'anthropologie, on va aller voir aujourd'hui ce que la psychologie peut nous en dire. C'est important de savoir là que ça a été les pistes ont été soulevées là par mon équipe, mais que c'est une question complexe. Je le répète parce que je veux pas qu'on pense là que c'est juste ça la réponse à la question. Mais je vous invite à réfléchir à ça aussi. Puis je serais curieuse d'entendre les auditeurs et auditrices sur ce qu'ils en pensent aussi. Donc, ce qui a été soulevé par mes étudiants et étudiantes, c'est vraiment le rôle omniprésent de l'identité. On revenait constamment à l'identité. Donc, qu'est-ce que l'identité? On en a déjà parlé ici. Ça joue un rôle majeur. Ça jouerait un rôle majeur dans l'explication des violences de masse. L'identité, ça réfère à nos caractéristiques de groupe, des groupes d'appartenance, comme nos valeurs communes, nos points en commun. On peut penser au genre, à la nationalité, même au sport qu'on pratique à chaque semaine ou à l'organisation dans laquelle on travaille. Dans les pistes de réponse, il y avait l'élément de la catégorisation sociale. Ça, c'est né de la Deuxième Guerre mondiale, cette idée. C'est vraiment ce qui a fait l'essor de la psychologie sociale. En réponse à la Deuxième Guerre mondiale, on cherchait de répondre à la question que je pose aujourd'hui. Puis un chercheur, Henri Tachevel, un psychologue qui est extrêmement renommé, qui a mené une étude où on séparait les participants en deux groupes qui ont des caractéristiques différentes, comme par exemple la couleur d'un chandail. Puis il a montré que la simple division d'une catégorie assez simple, comme la couleur d'un chandail, pouvait mener à la discrimination d'un groupe envers l'autre.
Donc, on est vraiment des drôles d'animaux. Hein?
Bien, on nous appelle les animaux sociaux ou « social animals » en anglais. On entend souvent ça. C'est pas pour rien. Puis ce processus de catégorisation sociale pourrait mener, dans certains cas, à la déshumanisation. La déshumanisation, ça nous amène à diviser le groupe entre le « nous » et les autres, mais ça peut faire en sorte qu'on retire des caractéristiques humaines, comme la capacité de faire des choix libres, la rationalité, les émotions, la sensibilité. Donc, on retire ces éléments des autres, de l'autre groupe, des membres de l'autre groupe, parce que ça nous permet ensuite de les traiter comme des personnes inférieures ou des sous-personnes. Donc, ils ne seraient pas capables de souffrir, ils n'ont pas d'empathie ou de raison, ils font des mauvais choix, donc ça peut être dangereux pour nous. Puis, ce type de description puis de déshumanisation, ben, les dirigeants qui veulent lancer dans un état de guerre n'hésitent pas à exploiter ça pour convaincre la population.
Et pourtant, ça n'a rien à voir avec la réalité.
Non, exactement. Les humains sont humains partout, mais cette catégorisation entre le « eux » et le « nous » peut nous pousser à déshumaniser, parfois même sans qu'on s'en rende trop compte. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça, puis il n'y a pas juste les éléments plus sociaux. Hein. On parle d'éléments sociaux ici quand on parle de groupes, comment on interagit avec les autres groupes. Il y a certaines personnalités aussi qui sont plus autoritaires que d'autres ou qui réagissent plus à ce type de menace ou de catégorisation entre les groupes. Donc, il y a un domaine de la psychologie qui a utilisé justement la personnalité autoritaire. Ça veut dire que justement, les gens sont pas tous et toutes aussi réactifs aux différences identitaires. La personnalité autoritaire, c'est un trait de personnalité qu'on possède plus ou moins. Donc, on l'a tous un peu. Hein. Des fois, on est plus autoritaire que d'autres fois. Puis, il y a des gens qui sont plus autoritaires que d'autres personnes. Donc, souvent, c'est des personnes qui sont issues des milieux ou des familles plus conservatrices, qui priorisent une éducation basée sur le respect de l'autorité. Puis vraiment, ils renforcent beaucoup l'importance de l'identité du groupe. Il y a environ 20 % de la population nord-américaine qui serait très, très autoritaire. Et puis, ces personnes seraient plus réceptives à des messages où il y aurait une menace entre deux groupes, par exemple, le « eux » et le « nous ». Donc, ils pourraient y voir une menace. Puis les tyrans ou les personnes qui dirigent ces pays ou ces groupes pourraient exploiter cette personnalité plus autoritaire pour justement aller vers des violences envers les membres des autres groupes. Évidemment, on essayait aussi, lors de nos discussions avec les étudiants, de trouver des explications qui nous ramenaient pas à l'identité, mais on y revenait toujours. Comme si la violence ne pouvait pas se produire sans qu'il y ait deux groupes ou trois groupes qui entrent d'une certaine façon en conflit. Donc, on a trouvé une autre théorie qui pourrait aussi expliquer. Ça s'appelle la théorie des jeux. Puis, ce que ça fait, c'est comme un calcul que les humains feraient entre les coûts et les bénéfices. Donc, ça se base sur une approche rationnelle de l'humain qui évaluerait, OK, si j'entre en guerre, ben je vais quand même perdre des vies humaines, mais je vais gagner tel territoire ou des certaines ressources qui n'étaient pas disponibles. Donc, les gens pourraient négocier, sous-peser leurs chances de gagner une guerre ou non. Puis, la personne qui s'estimerait la moins apte à gagner, bien, elle pourrait faire plus de concessions. Donc, de cette façon, il y aurait un moyen d'éviter une guerre qui serait coûteuse en pertes humaines et financières.
Et l'espoir dans tout ça, parce qu'il y en a.
Je voulais vraiment terminer avec une note d'espoir parce que on se sent vraiment, vraiment impuissant quand on commence à analyser cette situation. Puis même juste dans le quotidien, quand on voit tout ce qui se passe, on entend souvent les gens « j'écoute plus les nouvelles parce qu'il y a trop de choses horribles. »
D'atrocités, de choses horribles.
C'est vraiment décourageant d'une certaine façon. Mais là, j'ai posé la question à mes étudiants, l'espoir dans tout ça. Donc, on est arrivé à deux réponses. Premièrement, il faut vraiment promouvoir la démocratie et la diversité. Et deuxièmement, encourager le dialogue. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, bon, pour favoriser...
Mais pas le dialogue de sourds, n'est-ce pas, Roxane? L'écoute, c'est important.
Mais c'est très difficile parce que quand on voit qu'on est en conflit avec quelqu'un d'autre ou un autre groupe, ben ça peut être très difficile émotivement aussi juste
Absolument.
D'écouter l'autre point de vue. Mais des fois, c'est dans des petites actions quotidiennes, des interactions qui peuvent sembler banales, qu'on peut interagir dans un dialogue qui est bienveillant aussi. Puis si vous me permettez, Hélène, je vais vous donner l'exemple de mon étudiante Sahar, qui est née en Afghanistan, puis qui nous a partagé une expérience récente où elle a eu un échange à la plage avec une Québécoise de souche, qui se questionnait sur ses origines. Puis quand elle l'a vue en maillot de bain, elle était surprise d'apprendre qu'elle était d'origine afghane. Puis elle lui a dit, « Ben, comment ça, t'es normal, toi? » Donc, la première réaction de mon étudiante aurait pu être de s'offusquer.
Oui.
Mais elle a préféré dialoguer avec cette passante pour partager une vision qui est plus nuancée, qui lui parlait de la communauté afghane, comment elle était au Québec.
Alors, elle a fait preuve de maturité, cette Sahar.
Tout à fait. Elle a fait preuve de maturité pour aller au-delà de ce qui est rapporté aussi parfois dans les médias.
Ouais.
Donc, c'est vraiment dans des petites conversations ouvertes, respectueuses, qui pourrait paraître anodine, mais ça peut nous aider en tant qu'humains, tu sais, justement pour favoriser l'humanisation d'autrui puis transcender les stéréotypes. Puis, Hélène, en terminant, j'aimerais vous citer, j'ai paraphrasé une citation de Zacharie Richard dans mes propres mots, c'est « L'espoir n'est pas un choix, mais un devoir ». J'aime beaucoup cette citation, puis je voulais vous la partager.
Ah oui, merci de l'avoir partagée avec nous, avec les auditeurs et auditrices. « L'espoir n'est pas un choix, mais un devoir », et vous nous donnez envie d'écouter du Zacharie Richard. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Roxane de la Sablonnière. À la prochaine, on se retrouve dans un mois autour du 20 décembre, si je ne m'abuse.
Oui, parfait. Merci, au revoir.
Portez-vous bien. Allez chercher vos enfants, là.
Oui.
Bonne journée.
Bye-bye. Bye-bye.